Chapitre 7. Merci beaucoup, dit Molly ce soir-là en prenant les deux faisans que Charles lui tendait. C'est Guy qui cuisine ce soir. Vous allez voir, il est généreux avec le lard. C'est vrai, j'aime bien barder la volaille pour la faire rôtir. C'est tellement pénible d'avoir à l'arroser et à l'arroser encore. Tiens, ça sonne. Sûrement un de ces journalistes. J'y vais, s'exclama Charles. Ça doit être Agatha. Je sens d'ici les effluves d'un parfum français. Ils sont ensemble ? Demanda Guy une fois que Charles fut hors de portée de voix. Je ne crois pas. Agatha entra avec un gros bocal de sauce aux érelles. De la part de Mrs. Bluxby, annonça-t-elle. Bonsoir, Guy. Elle portait des fossiles, ce qui ne manqua pas d'agacer Charles, qui s'agaça aussitôt d'être agacé. Après tout, si elle avait envie de se pomponner... « Vous êtes souffrant? Une rage de dents ?» demanda le pasteur. « Vous avez une tête épouvantable. »« Un léger mal de tête, » mentit Charles. « La presse voir celle toujours ?»« Non, en dehors d'un jeune homme qui ressemble vaguement à un bouffon de cour. On l'a vu se cacher derrière un massif pour aborder Molly. »«
C'est un gentil, ce garçon, » dit cette dernière.
« Guy, j'ai fini d'éplucher les pommes de terre, tu peux les mettre au four ?» Quand je lui ai demandé tout net de déguerpir et de ne plus m'embêter, il a eu l'air si peiné. J'ai fini par lui dire de s'endurcir, sinon il ne ferait jamais un bon reporter.
« Ma femme est incroyable !» commenta le pasteur. « Quand un homme est sous son charme, elle est la dernière à s'en rendre compte. »«
Il va falloir que j'aie une petite discussion avec Simon, » songea Agatha. « Je suis sûre que c'est lui. Le voilà sous l'emprise d'un nouveau coup de cœur. Il est vraiment temps qu'il grandisse. » Elle remarqua que Guy l'observait. Tout à coup, elle sourit, pas de son habituel sourire de façade, mais d'un sourire timide, très féminin, qui illumina son visage.
« Ça sonne de nouveau !» fit Charles d'une voix forte. « Je vais y aller !»
Il revint peu après accompagné de Tony. Des gouttes de pluie brillaient dans ses cheveux blonds. Elle était toujours aussi belle. « C'est à 11 h, Agatha » annonça-t-elle en se débarrassant de sa doudoune écarlate. Dessous, elle portait un pull léger de couleur bleue qui mettait ses petits seins bien haut en valeur.
« On ferait bien de laisser tomber, » fit Agatha. « Merci, Tony, ce n'est pas la peine de m'attendre. »«
Qu'elle reste donc dîner avec nous, » dit Rory. « Nous avons largement de quoi. »
Tony lança un regard gêné en direction de sa patronne. Guy fit un pas en avant.
« Personne n'a l'air de vouloir nous présenter. Guy Harris, je crois comprendre que vous travaillez pour Agatha. »
« En effet, Tony Gilmore. Mais je ferais mieux d'y aller. Simon m'attend pour boire un verre, je lui ai promis. »«
Votre petit ami ?»«
Non, un collègue. On s'est croisés et il m'a dit qu'il essayait de glaner un maximum d'informations sur le village pour aider Agatha. »«
Allez le chercher dans ce cas, » dit Molly. « Il fait un temps épouvantable ce soir. »
Quelques minutes plus tard, Tony revint avec Simon, qui, croisant le regard de Molly, devint rouge pivoine.
« Juste ciel !» s'écria-t-elle. « Que faisiez-vous à rôder autour du presbytère? J'aurais répondu à vos questions si vous m'aviez dit que vous travailliez pour Agatha. Il suffisait de sonner. »
« Je me suis dit que vous étiez déjà sûrement bien préoccupée. »«
Molly ?» enchaîna Guy. « Qu'as-tu à boire? J'espère que ta pauvre cuisinière à bois n'a pas tout sifflé. »«
Regarde sur le plan de travail, il y a un cubi de merlot. Sinon j'ai de l'alcool de prune. » Chapeau, d'être capable de proposer sans la moindre gêne du vin en cubi ou de l'alcool maison à ses invités, se dit Agatha avec envie. Pas comme tous ces snobs qui lisent les suppléments illustrés du journal du dimanche et regardent des programmes prétentieux à la télé. Je les entends d'ici les rombières.
Enfin, très cher, même morte, je ne servirai pas ce genre de choses à mes invités.
Elles entretiennent les différences de classe. D'ailleurs, leurs suppléments illustrés et leurs magazines sur papier glacé ont parfois des conseillères en éthique et en savoir-vivre. Comment s'appelait la pimbèche maigrichonne qui travaillait pour dîner de prestige? Tout ce qu'elle savait dire, c'est « Mon Dieu, un tel a coupé sa salade, ou tel autre a mangé ses asperges avec ses couverts !» L'expressivité d'Agatha, sur le visage de laquelle les pensées couraient comme les ombres des nuages dans le ciel, acheva de piquer la curiosité de Guy. Pour autant, il n'échappait pas au regard glacial de Charles Fraisse, qui le jaugeait sans se cacher.
Le dîner se déroula agréablement et tous les convives y prirent plaisir, à l'exception de Charles, qui semblait sur les nerfs, et d'Agatha, qui s'assombrit à mesure que la soirée avançait. Pourquoi fallait-il que Tony ait toujours l'air si jeune et radieuse? Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, les invités de sexe masculin s'esclaffaient. Pourtant, il n'y avait rien de particulièrement drôle aux anecdotes qu'elle racontait sur son travail de détective. Simon, lui, se contentait de contempler Molly. Au bout d'un long moment, Agatha annonça qu'elle ferait mieux de partir si elle voulait pouvoir observer l'assemblée de sorcières. Elle se leva aussitôt imitée par Tony. « Votre manteau est trop voyant, » fit-elle. « Simon, venez-vous plutôt. Charles ?»«
Tu n'as pas besoin de moi, »
répondit-il avec paresse. « À vrai dire, » intervint Simon, « j'ai attrapé froid. » Vous pouvez toujours m'appeler si... Bon, laissez tomber. Tony et moi, on s'en occupe. Dehors, il pleuvait à verse. Elles ne vont jamais se réunir avec le temps qu'il fait, supposa Agatha. Bon, on va quand même s'avancer. Elles se réfugièrent dans la voiture d'Agatha qui, allumant le moteur, actionna par la même la radio. À l'antenne, Air Supply, groupe de pop qui interprétait All Out of Love. Les flancs de la voiture frottèrent contre des arbustes épineux quand Agatha sortit de sa place de stationnement et elle grimaça tout en éteignant la radio. « Parfait !» commenta Tony. « Cette chanson, franchement, moi non plus, je n'ai aucune envie de l'écouter. Hein. »« Arrêtez de dire n'importe quoi. Où se trouve cette foutue colline ? Il faut prendre à gauche après l'arbre des sorcières. On devrait peut-être se garer un peu avant la colline et terminer à pied. »« Je vais me garer dans les fourrés. » Ce faisant, elle entendit de nouveaux frottements. « Attention à la carrosserie !» fit Tony. « Bon, la peinture était déjà abîmée de toute façon. »« Ce n'est pas moi qui l'ai rayée !» se défendit Agatha avec toute la mauvaise foi d'une femme qui a effectivement endommagé les deux côtés de sa voiture dans la même soirée. « Je me fais rentrer dedans tous les quatre matins !»« Vous devriez peut-être éteindre les phares. J'allais le faire !» rétorqua Agatha. Il n'y a rien de plus agaçant que les gens qui vous disent quoi faire pile au moment où vous alliez le faire. Bon, allons voir cette assemblée à la noix. Une voiture ! Elles se tapirent dans les hautes haies qui bordaient l'étroite route.
Je pensais qu'elle viendrait à pied, dit Agatha. Remarquez, on n'est pas en ville. Les gens ne marchent pas à la campagne. Moi-même, depuis que j'ai emménagé ici, j'ai l'impression que les muscles de mes jambes se sont atrophiés.
La route débouchait sur une clairière ouverte au fond de laquelle se dressaient les ruines d'une ferme. Elles restèrent à couvert et purent voir quatre femmes, vêtues de noir, en train de fumer.
« On devrait peut-être commencer le chant, » dit l'une d'entre elles.
Agatha avait déjà entendu cette voix, elle en était sûre. « La femme du café !»«
Il a dit qu'il viendrait !»
Elles se mirent à chanter, d'abord doucement, puis de plus en plus fort.
« Viens !» Seigneur, jusqu'à tes serviteurs, monte des profondeurs des ténèbres.
Quel ramassis d'inepties,
chuchota Tony. Elle croit vraiment à ce qu'elle raconte? Mais entre leur étrange chant répétitif, la noirceur de la nuit et le vent qui sifflait dans les branches au-dessus de sa tête, Agatha sentait la présence du mal. Puis, dans la cour de la ferme, apparut une fumée violette qui monta en volute à mesure que le chant prenait de l'ampleur. Tout à coup, Agatha eut l'impression que quelqu'un se tenait derrière elle. À peine s'était-elle retournée qu'une main invisible lui enfonça une seringue dans le cou. Agatha reprit conscience à la lueur de l'aube. Elle mourait de froid. Elle avait les chevilles entravées et les mains attachées dans le dos. Elle était nue. Au-dessus d'elle, les branches squelettiques de l'arbre des sorcières se balançaient au gré du vent. Deux vieux messieurs du village la regardaient avec curiosité.
« Dis donc, c'est qu'elle a pas de vergeture. Elle mettrait bien dans mon lit, celle-là. »«
Venez me détacher !»
hurla Agatha.
« Je voudrais bien, mais c'est pas possible, petite dame. Touchez à rien qu'ils nous ont dit la police quand on a appelé. »
On entendit des sirènes au loin. Molly accourait, suivie de Guy et de Rory. Tous trois portaient des couvertures.
« Que s'est-il passé ?» demanda Molly.
« On nous a prévenus de ne toucher à rien, mais on va au moins vous couvrir. »«
Et Tony ?» fit Agatha. « Ils l'ont eu aussi ?»«
Elle est juste derrière vous, mais elle n'a pas repris connaissance. Voilà, vous vous sentirez mieux avec ce châle en cachemire bien chaud et mon vieux manteau de fourrure.
Rory, mets les couvertures sur Tony !»
Une voiture de police arriva avec Bill Wong et Alice Peterson à son bord.
« On n'attend pas la scientifique, » dit Bill.
« Il faut vous conduire à l'hôpital. On peut mourir d'hypothermie. J'entends l'ambulance qui arrive. Alice, tu veux couper leurs liens en Chatterton et les mettre dans des sachets ? Agatha, qui a fait ça ?»
Les sorcières étaient en pleine cérémonie. Tony et moi les observions et tout à coup, j'ai senti une piqûre dans mon cou. Ensuite, je me suis réveillée ici.
Bill, parmi elles, il y avait la femme de l'épicerie café du village, j'en suis certaine.
On va en reparler, dit Bill. Pour l'instant, j'appelle Doris pour qu'elle vous apporte des vêtements. Je m'occuperai d'aller chez Tony plus tard. Elle n'a toujours pas repris connaissance.
Agatha s'évanouit de nouveau dans l'ambulance. Quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans une chambre d'hôpital qu'elle partageait avec Tony.
« Tony, vous êtes réveillée ?»«
Oui, » répondit la jeune femme.
« Alice est passée et a récupéré mes clés. Elle m'a dit qu'on nous avait retrouvés nus au pied de ce fameux arbre. »«
Ne vous plaignez pas, à votre âge, vous avez une silhouette impeccable, mais moi... »
gémit Agatha. Je me suis fait épiler les jambes et le maillot la semaine dernière, mais je n'ai pas eu envie de faire les aisselles. Je ressemble à King Kong, et ils m'ont vu comme ça.
Qui ça? Les petits vieux qui nous ont trouvés?
Non, Rory et son frère Guy.
Ce n'est pas la nudité qui donne des pensées lubriques aux hommes, je crois, proféra Tony d'un ton grave. Si vous aviez porté des dessous à friolant, en revanche...
Je n'inspire plus de pensées lubriques à qui que ce soit, grommela Agatha.
« Ce doit être Guy, » murmura Tony qui reconnaissait les signes d'une nouvelle obsession chez sa patronne.
« Qu'est-ce que vous dites ?»«
Rien. »
Dans la journée, Agatha et Tony firent leur déposition et apprirent qu'elle pourrait rentrer chez elle dès le lendemain matin. Tony remarqua qu'à chaque fois que quelqu'un poussait la porte de la chambre, Agatha s'arrangeait les cheveux et se redressait sur son lit, mais son excitation s'évanouissait aussitôt. Même en voyant apparaître Mrs. Blugsby, elle s'affala de nouveau sur l'oreiller, la mine déçue. Le lendemain, quand elles purent quitter l'hôpital, Agatha raccompagna Tony au presbytère où elle avait laissé sa voiture.
« Et si on sonnait pour voir Molly ?» proposa Agatha.
Tony haussa les épaules.
« Ça ne me dit rien.
Pourquoi ?»«
Eh bien, d'abord, nous avons été agressés sur sa paroisse. » Ensuite, vous enquêtez parce qu'au départ, c'est elle qui vous a supplié de le faire.
À vrai dire, elle a très habilement manipulé Edward pour qu'il vous embauche. Enfin, elle aurait pu passer à l'hôpital pour voir comment nous allions.
Agatha hésita. Bon, c'est vrai que je me sens encore un peu patraque. Je serais curieuse de savoir ce qu'elles nous ont administré, les sorcières.
Je rentre à la maison et prenez votre journée aussi, Tony.
Elle s'éloigna en jetant un coup d'œil dans son rétroviseur. Guy, pensait-il à elle? Fort heureusement, elle n'entendit pas la conversation qui se tenait dans le presbytère à ce moment-là.
« Elle a quelque chose de terriblement sexy !» disait Guy d'un air rêveur.
« Agatha ?» demanda Molly en servant le thé.
« C'est vrai que tu t'es bien rincé l'œil. Hein. »«
Mais non, je parle de la jeune, Denis !»«
N'y pense même pas, vieux pervers, tu pourrais être son père. »
43 ans, ce n'est pas vieux.
Mais elle a tout juste la vingtaine.
Et c'est la petite protégée d'Agatha. Fais-moi confiance, tu n'as aucun intérêt à t'attirer ses foudres.
Agatha rentra chez elle avec la ferme intention de se délasser dans un bon bain et de dormir. Alors qu'elle s'apprêtait à se glisser dans l'eau chaude, le téléphone sonna.
C'était Guy, elle était aux anges.
Vous n'êtes pas trop secouée ? Demanda-t-il.
« Je me disais que nous pourrions peut-être dîner ensemble ce soir, si vous vous sentez en forme. »«
Avec plaisir, » dit-elle, tandis que dans son esprit explosait le feu d'artifice d'une nouvelle obsession.
« Dans ce cas, je passe vous prendre à 20h. À tout à l'heure !»
Agatha prit un bain rapide et s'habilla avant de filer à Evesham, où elle poussa la porte d'un institut de beauté en se plaignant de ressembler à une guenon. Elle se fit épiler les aisselles et aussi les jambes, même si elle n'en avait pas vraiment besoin, et décida de ne pas faire de maillot intégral, ayant lu récemment que derrière chaque homme qui aimait les pubis glabres se cachait un pédophile refoulé. L'esthéticienne traqua également le moindre poil de sa moustache et lui affina les sourcils. Agatha croyait toujours dur comme fer que plus on soignait son apparence avant un rendez-vous galant, plus on avait de chances qu'il soit réussi, même si la réalité lui avait donné tort à maintes reprises.
De retour dans ses pénates, elle essaya une robe en cachemire rouge et laissa échapper un cri d'horreur en voyant le renflement que dessinait son ventre. Un body gainant, voilà ce qu'il lui fallait. Elle se ravisa aussitôt en songeant au moment où, avec un peu de chance, d'ici quelques heures, Guy la déshabillerait. Le temps passait, et bientôt son lit se retrouva jonché de vêtements mis de côté. Elle opta finalement pour une petite jupe noire, portée sur des bas auto-fixants noirs et une culotte flottante, un long manteau de soirée en soie dorée, impeccablement taillé, et des talons hauts. C'est en descendant les escaliers, enveloppée dans un nuage de haute couture de Givenchy, qu'elle se rendit compte que Charles l'attendait dans l'entrée. Au même moment, la sonnette retentit. « J'ouvre ?» demanda Charles. Agatha s'apprêtait à le rabrouer, mais il ajouta.
« Il fait la une du Sun. »«
Oh mon Dieu, nu ?»«
Comme un verre. »«
Tu en as un exemplaire ?»«
Oui, je vais ouvrir. » Ça doit être Guy, impatient d'en apprendre davantage sur Tony.
C'est moi qui l'ai invité, que je sache. Un nouveau coup de sonnette se fit entendre.
C'est à Tony qu'il s'intéresse. Il me l'a dit. Il veut quelques conseils pour passer à l'attaque en connaissance de cause. Je lui ai promis de lui tordre le cou. Quant à toi, tu n'as pas regardé ton courrier? Il y a une lettre d'un laboratoire médical.
Agatha s'approcha d'un pas raide et prit l'enveloppe qu'il lui tendait. Elle s'assit sur la dernière marche et lut le compte-rendu. Ni poison ni drogue. Mrs. Tart est morte de mort naturelle.
Veux-tu que j'ouvre la porte?
Non. Enfin si. Dis-lui que je suis malade et que je l'appellerai. Donne-moi le Sun. Agatha regarda la photographie en une du journal horrifiée. Dessus, Tony et elle, ligotés et nus au pied de cet arbre de malheur. Tony était toujours inconsciente, mais Agatha lançait un regard noir au photographe. Le titre, La Belle et la Bête, était un clin d'œil à la réputation d'Agatha, connue pour être impolie et acerbe.
J'ai dit au journaliste qui campe devant chez toi que tu étais toujours à l'hôpital.
Le battant de la boîte aux lettres s'ouvrit avec un bruit métallique. Agatha! C'était la voix de Guy. « Est-ce que ça va ?»«
Elle n'est pas dans son assiette !» cria Charles. « Elle vous appellera demain !»«
Tu aurais pu lui ouvrir ?»«
Tu as vu comment tu es assise ?»« Tu sais très bien que les bas auto-fixants, ça ne tient pas en place. »« On ne voit que ta culotte à froufrou !»
Charles la fixa un instant. Elle avait l'air désespérée.
« Bon, je file. »«
Arrête de courir après un rêve impossible !»
Enfile une tenue confortable et couche-toi de bonne heure.
Une fois seule, Agatha suivit les conseils de Charles sans se poser de questions. Elle s'installa sur son canapé, alluma la télévision et tomba, à son grand soulagement, sur un épisode des enquêtes de Morse qu'elle n'avait pas vu. Elle commençait à s'assoupir quand la voix de Guy se fit de nouveau entendre par le battant de la boîte aux lettres. Agatha! « Je ne m'en irai que lorsque vous m'aurez dit vous-même que tout va bien. Molly s'inquiète beaucoup pour vous. » Elle soupira et alla ouvrir. « Vous voyez, je vais bien. »« Je suis revenue pour vous annoncer la nouvelle. Ils ont procédé à une arrestation. Non, à 4 arrestations en fait. »« Entrez, vous allez en raconter. » Quelque chose se relâcha en elle et pour la première fois, Agatha se rendit compte que toute cette histoire la terrifiait. Elle précéda Guy dans la cuisine. « Un café ?»
« Oui, avec plaisir. »
Il l'observa attentivement tandis qu'elle s'activait, rassemblant tasses, sucre et lait. Elle portait un pullover ample, en cachemire, et une jupe noire évasée avec des mules rouges à talons et un parfum capiteux flottait autour d'elle. Elle dégageait quelque chose de bien plus sexy que précédemment, sans compter qu'elle ne manifestait pas le moindre intérêt pour lui. Comme Charles l'avait un jour souligné, lorsqu'elle se mettait en chasse, Agatha pouvait calmer les ardeurs de n'importe quel homme. Elle alluma une cigarette.
« Oh, vous fumez? Je suis ici chez moi, alors si vous n'êtes pas content, allez vous faire voir ou assumez un peu et dites-moi qui ils ont arrêté. »
« 4 femmes qui appartiennent au clan des sorcières. Ils en sont sûrs ?»
Oui, un habitant du village les a prises en photo en train de vous sortir d'un van avant de vous déshabiller, de vous ligoter et de vous laisser sous cet arbre.
Elles ont avoué les meurtres?
Je l'ignore, mais elles ont expliqué avoir entendu une voix plaintive qui leur disait « Emparez-vous des curieuses !» Nous le savons par la femme de ménage de Molly, dont le mari est policier. La meneuse semble être la femme qui tient l'épicerie de Sumpton Harcourt. « Celle qui a craché dans mon plat !»« Quelle vieille peau !» Mais, une petite minute, la dernière chose dont je me souviens, c'est cette seringue dans mon cou. Les analyses ne sont toujours pas revenues, d'ailleurs. Et alors, où voulez-vous en venir? Eh bien, j'étais en train de les regarder, ces quatre pauvres vieilles sorcières, en train de convoquer je ne sais quelle force maléfique. C'est donc forcément quelqu'un d'autre qui m'a piqué et qui essaie de me faire peur. Ce n'est pas la première fois, et en général, c'est ma colère que ça déclenche. Et Tony, comment prend-elle tout ça? Plutôt bien, pour ce que j'en sais. Mais si vous voulez mon avis, vous avez mal choisi votre moment. Elle n'a pas besoin qu'un homme deux fois plus vieux qu'elle vienne renifler sa petite culotte. Vous êtes obligée d'être aussi grossière? Tony est une très jolie femme. Vous devez avoir l'habitude de voir les hommes tomber sous son charme, non? En effet. Et mon souhait le plus cher est qu'elle se case avec quelqu'un de son âge, sur ce bonsoir. Quoi? Vous avez bien entendu. En clair, oust, du balai, bye bye. Guy tourna les talons et sortit de la cuisine à grandes enjambées. 10 secondes plus tard, la porte d'entrée claqua. Pourquoi faut-il que Charles ait toujours raison? Dit Agatha en regardant ses chats. Puis elle retourna au salon où le générique de fin des enquêtes de Morse défilait à l'écran. Le journal télévisé commença. Mort, malheur, catastrophe. Elle éteignit et monta se coucher. Au réveil, le lendemain matin, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, elle se demanda si le soleil reviendrait un jour et se désola d'avoir l'âme d'une romantique. Elle entendit des bruissements dans le chaume au-dessus d'elle. Ah, les cottages, c'était bien joli, mais ça coûtait une fortune à entretenir. Son esprit tourmenté revint sur les meurtres. Savoir que les coupables avaient été arrêtés l'aiderait à retrouver sa tranquillité, mais elle ne croyait pas un seul instant à la culpabilité des femmes du clan. La police n'aurait bientôt d'autre choix que de les libérer. Il n'avait pas la moindre preuve scientifique contre elle. Agatha en était certaine. La sonnerie stridente du téléphone branché à côté de la tête de Lee retentit. Au bout du fil, un journaliste d'agence qui voulait recueillir ses impressions sur ce qui lui était arrivé. « Je ne sais pas qui m'a attaqué, mais je suis furieuse de ce sale coup. Quoi? Ces idiotes qui se prennent pour des sorcières? Non, elles n'ont rien à voir avec ça. Elles sont aussi inoffensives que les gosses qui se déguisent pour Halloween. » À peine avait-elle raccroché que la sonnerie retentit de nouveau. « Agatha ?» fit Edward. « Maintenant que les meurtres sont résolus, je vous libère de votre contrat. Et comme vous n'avez rien fait, ne vous avisez pas de m'envoyer une facture. » « Vous en recevrez pourtant une pour mes notes de frais, » répondit froidement Agatha. « En l'absence de paiement, attendez-vous à être convoqué devant le tribunal d'instance. »« Écoutez-moi bien, je... » Agatha lui raccrocha au nez. À l'agence, elle assigna à chacun une mission puis expliqua. « J'ai quelques détails à régler et une facture à vous donner, Mrs. Friedman. Il faudra l'envoyer à Sir Edward. Tony, vous êtes rétabli ? » ?»« Oui, tout va bien. » Et pour cause, un interne rencontré à l'hôpital l'avait invité à dîner le soir même au restaurant. Brun, les cheveux bouclés, c'était un homme bien fait, à peine plus âgé qu'elle. Tout à coup, l'instinct protecteur d'Agatha refit surface. La pauvre, elle venait de vivre une expérience traumatisante. « Un dîner entre filles, ce soir, ça vous dit ? » proposa-t-elle. « Impossible, j'ai un rendez-vous galant. Avec qui ? » ?»« Agatha. » « Pour une fois, mêlez-vous de vos affaires. »«
C'est votre vie ?»
fit-elle en haussant les épaules. « Comme vous dites. » Tony avait un faible pour les hommes plus âgés qu'elle, songea Agatha. À tous les coups, elle sortait avec Guy. Vieux pervers. Eh bien, il allait voir ce qu'il allait voir. La journée n'en finissait pas, tandis qu'Agatha, avec l'aide de Mrs. Friedman, essayait de venir à bout des kilomètres de l'abominable paperasse qui s'était accumulée. Tony, à qui elle avait confié des investigations dans le cadre d'un divorce, rentra pour taper son rapport. Les autres revinrent également, et l'agence fut bientôt remplie du cliquetis des claviers d'ordinateur. Enfin, Tony fit une retouche à son maquillage et mit une fausse fourrure blanche. Prévoyant de la suivre, Agatha attrapa elle aussi son manteau, mais au même moment, la porte de l'agence s'ouvrit sur son ex-mari, James Lacey. Agatha, je me suis laissé dire qu'un petit dîner te ferait plaisir. Je rentre juste de voyage.
Ah, d'accord.
Car le beau James lui faisait toujours autant d'effet. Ses cheveux touffus et noirs avaient juste ce qu'il fallait de gris au niveau des tempes, et le bleu de ses yeux, aussi profond que la mer, tranchait vivement sur son visage bronzé. Pourtant, le souvenir de son autoritarisme, il choisissait ses vêtements, lui interdisait de travailler, décourageait toute résurgence de pensée romantique. Ce ne fut qu'une fois installée dans la salle de restaurant du George, avec James, qu'Agatha se rappela qu'elle s'était promis de veiller sur Tony ce soir-là. L'idée que Tony aurait été furieuse si elle l'avait repéré la consola. Et puis, n'était-il pas flatteur d'être invité à dîner par un bel homme qui, en plus, savait écouter? Quand Agatha se tut, après lui avoir raconté les derniers événements, il resta un moment perdu dans ses pensées. Puis il dit « Je pense que tu y es. » Ou plutôt, que tu y étais avant que ces histoires de sorcières t'éloignent de la solution. Il y avait probablement un homme dans la vie de Margaret Darby, quelqu'un a pu la tuer pour son argent. C'est sa sœur qui hérite. Je suppose. Je ne m'y suis pas vraiment intéressée. Je vais demander à Patrick de se renseigner. Les gens qui ont dîné chez Sir Edward savent peut-être quelque chose sur cette femme. Lord Turkettle est philatéliste. J'ai mis la main sur un timbre qui pourrait être rare. C'est un bon prétexte pour le consulter, non? J'ignorais que tu collectionnais les timbres. Quand j'étais petit uniquement, j'allais tout jeter, mais d'après un de mes amis, j'ai une pièce très recherchée. Un timbre d'un penny à l'effigie de la reine Victoria. Officiellement, je n'enquête plus sur les meurtres. Cela dit, je laisserai volontiers les autres s'occuper de ces sordides affaires de divorce et autres vols à l'étalage le temps d'une journée. Bref, parlons d'autre chose. D'où reviens-tu? Agatha n'avait pas remarqué Guy, partiellement caché par un palmier en pot de l'autre côté du restaurant. Mais lui l'avait vu, en charmante compagnie d'ailleurs. Ses cheveux brillaient sous l'éclairage de la salle et son visage était animé. Quel tempérament de feu, songea Guy qui dînait avec un ami. Plus tôt dans la soirée, il avait attendu Tony à la sortie de son travail pour l'inviter à sortir, mais elle l'avait éconduit avant de rejoindre en courant un tout jeune homme qui lui avait donné l'impression d'être un vieux satyre. Mais déjà, une idée tristement ordinaire germait dans son esprit de mâle. S'il mettait Agatha dans son lit et lui faisait passer un moment inoubliable, peut-être s'en ouvrirait-elle à Tony, qui prendrait alors conscience de ce qu'elle avait raté. On compte plus les hommes qui s'imaginent passer pour un dieu du sexe après une longue nuit de passion sous Viagra, alors qu'en réalité, les femmes en sortent meurtries et épuisées. Le lendemain, Agatha prétexta qu'elle passerait peut-être à l'agence après leur visite pour que James et elle se rendent chez Lord Turkettle, chacun dans sa voiture. Sur la route, le pâle disque du soleil s'élevait au-dessus des rares branches d'arbres. Le village de Cuckleton semblait plus agréable que celui de Sompton Harcourt. Il comptait une épicerie qui faisait office de bureau de poste, un pub, deux ou trois boutiques de souvenirs et un restaurant qui s'appelait Carte Blanche. Agatha se demanda qui des clients ou du chef avait carte blanche. « Tournez à droite !» ordonna la voix de gouvernante de son tout nouveau GPS. La maison de Lord Turkettle semblait incongrue dans le village, comme si on l'avait arrachée de son emplacement initial sur la vieille route de l'aéroport pour la déposer là. Datant des années 1930, elle était bâtie dans le style appelé pendant un moment « néo-Tudor ». Néo, signifiant en réalité « faux », a commencé par la façade avant d'un blanc étincelant qui affichait un colombage d'apparat. « Pas de chaume », remarqua Agatha. « Le petit malin, il n'est pas allé jusque-là dans l'imitation. » « L'ardoise, je ferais bien d'y songer aussi. »« À quoi penses-tu ? » demanda James, qui l'avait rejointe après s'être garée derrière elle. « À une toiture en ardoise. » Ce serait chouette, n'est-ce pas? Moi-même, je n'en peux plus de cette toiture en chaume. Trop de temps et trop d'argent. Lord Turkettle souffrait manifestement d'un manque de soleil. Sa peau était blanche et poudreuse et ses yeux délavés. James se présenta ainsi qu'Agatha, puis il dit « Je vous ai apporté le timbre dont je vous ai parlé. C'est très aimable à vous de nous recevoir. »
« Je vous attendais seul ?» répondit Lord Turkettle. « Bon, ce n'est pas grave. Entrez !» « Mary, apporte le café dans le salon !»«
Votre femme ? »
demanda Agatha.
Non, ma fille. Je sais qui vous êtes. Cette détective qui fourre son nez partout. Asseyez-vous. Pas vous, Lessie. Montrez-moi ce timbre à la lumière. Pièce d'un penny à l'effigie de Victoria. Cachet de la poste encore sur l'enveloppe. Pas mal. Mais vous n'en tirerez pas une fortune. Dans les 350 livres au mieux. Je vais vous montrer mes plus belles pièces.
Tous deux s'installèrent derrière un grand bureau en acajou, laissant Agatha à ses pensées. Elle avait souvent l'impression d'être un dinosaure. Aujourd'hui, on ne gérait plus que par l'ADN, la plupart des crimes étant résolus grâce à la médecine légale. Cela dit, son intuition hors pair lui avait valu de nombreux succès. À trop se reposer sur les satellites espions, les services de renseignement avaient essuyé de cuisants échecs par le passé, oubliant qu'un homme sur le terrain pouvait s'avérer bien plus utile. De même, la police se concentrait trop souvent sur la technologie, attendant parfois des résultats d'analyse ADN pendant des mois, alors qu'Agatha, elle, observait, furetait, jaugeait. Alors au lieu de se mêler de la conversation, comme elle l'aurait fait normalement, Agatha resta assise tranquillement pour examiner Lord Turkettle. Elle avait déjà fait des recherches sur lui avant de venir. Militaire, dans ses jeunes années, il avait ensuite étudié le droit. Veuf. Une fille, pas de scandale ni de vague. Tout à coup, Lord Turkettle se retourna.
Vous faites dans la manipulation mentale, Mrs. Raisin. Je vous sens presque sonder mon cerveau. Vous pouvez arrêter, ne tuez personne. Prenez plutôt un magazine.
Inquiétant, songea Agatha. Cela dit, Patrick lui avait raconté que certains inspecteurs ou agents de police développaient un genre de sixième sens, grâce auquel ils pouvaient entrer dans la tête des malfaiteurs et savoir s'ils mentaient, par exemple. Elle prit un exemplaire de Cotswold Life sur la table basse devant elle et se détendit en lisant un article sur une exploitation de lavande. Les deux hommes la rejoignirent au moment où Mary entrait dans la pièce en poussant un chariot sur lequel s'entassait une cafetière, des tasses et des gâteaux secs.
« Mes excuses, Mrs. Raisin, j'espère ne pas vous avoir froissée. »«
Pas du tout. J'admets être curieuse. Mais puisque vous-même semblez posséder un sixième sens, peut-être savez-vous qui a tué Margaret Darby ?»«
Ce que je sais, c'est qu'il ne faut peut-être pas commencer par le commencement. »«
Que voulez-vous dire ?»
J'ai cru comprendre que vous vous étiez concentré sur cette pauvre Margaret Darby. Mais que diriez-vous de vous arrêter un instant sur Tiffany? Elle s'est vantée de savoir qui était le meurtrier, et je suis certain que, comme moi, vous avez pensé qu'elle mentait. Mais le tueur l'a cru, lui. Alors de qui peut-il s'agir? Interroger son mari sur son entourage. Elle était censée aller à Londres pour rendre visite à des amis, n'est-ce pas? Lesquels? Leur a-t-elle fait des révélations? Elle est morte avant de pouvoir partir, mais si elle les a appelés pour repousser sa visite, elle leur a peut-être dit quelque chose.
Malheureusement, j'ai besoin de gagner ma vie et Edward a annulé notre contrat.
Inutile d'espérer quoi que ce soit de moi, répondit le vénérable juge. Vieillir revient terriblement cher. J'aurai bientôt besoin d'une infirmière à plein temps pour essuyer la bave de mes lèvres séniles.
Une fois dehors, Agatha dit « Allons au pub. Je vais appeler Patrick. Je suis sûre que la police sait à qui Tiffany devait rendre visite. »
« Tu ne veux pas aller à celui de Sompton Harcourt ?»«
Non, je préfère essayer celui-ci. Je n'ai aucune envie de remettre les pieds dans ce village de sorcières. J'y ai déjà pris une aiguille dans le cou, ça suffit comme ça. »
Devant le pub du village, nommé le King Charles, se balançait un portrait raté de Sa Majesté. La brasserie qui possédait le pub avait cherché à en faire un lieu douillet, mais l'épais tapis à motifs géométriques jaunes et rouges qui couvrait le sol n'était pas du meilleur effet avec la tapisserie à rayures de style Regency. Sans parler des peintures, qui étaient si maladroites qu'elles devaient être l'œuvre des villageois. Pire encore, il y avait de la musique d'ambiance.
J'ai fait quelques pas dans le nightclub ce matin. Il y avait des traces de cumel sur la poignée de porte.
James! Qu'est-ce que tu marmonnes encore ? Fit Agatha d'un ton sec qui trahissait son manque de culture littéraire. Elle devinait en effet qu'il citait un auteur connu, mais était incapable de le reconnaître.
John Betjeman, Son and Fun.
C'est quoi le rapport ? Tu peux me dire ?
Ce sandwich à la tomate écrasée sur le sol, cinquième verre, ça ne te dit rien ?
Trouvons un autre endroit. Mais déjà, un fabuleux parfum de gin, promesse d'un réconfort mérité, déployait des tentacules tentateurs vers Agatha. « Non, restons ici, c'est parfait pour passer des coups de fil, c'est calme !»«
Comme tu voudras. Gin tonic, comme d'habitude, un double s'il te plaît. »« Tu conduis, je te rappelle. Si tu me laisses te ramener chez toi... » »«
C'est vrai qu'il est encore tout. Je ne m'en étais pas rendu compte. »
Elle mentait, bien sûr, mais pas question de laisser qui que ce soit s'imaginer qu'elle avait une furieuse envie d'alcool.
« Je vais prendre un café, plutôt. »
Ils s'installèrent sur ce que la propriétaire appela fièrement une de leurs nouvelles banquettes, puis Agatha téléphona à Patrick pour savoir s'il en avait appris davantage au sujet du testament de Margaret Darby.
« J'ai cru comprendre qu'elle n'arrêtait pas de le modifier. » l'informa Patrick. « Mais elle a tout laissé à Dog's Trust, vous savez, cette organisation caritative pour le bien-être animal. »
Agatha raccrocha. James reprit.
« Torquetel n'a pas tort. Je pense qu'il faut se concentrer sur Tiffany. »
« Oui, mais ça me turlupine, cette histoire de changement de bénéficiaire. La sœur, par exemple, n'était pas au courant. Elle croyait hériter de tout. Elle n'était peut-être pas la seule. »
Agatha rappela Patrick et lui demanda de trouver qui était le légataire avant que Margaret choisisse Dog's Trust. Elle avala son café. « Voilà pourquoi les gens se mettent à picoler, » songea-t-elle. « Le café est dégoûtant et le lieu déprimant. »
« Tu n'oublies pas un point important ?
Quoi donc ?»«
Chercher qui Tiffany comptait voir à Londres ?»«
Si tu es là pour me donner des leçons sur comment faire mon travail, je te conseille de rentrer chez toi, tes livres t'attendent. »
Madame n'a pas eu son verre, elle sort les griffes.
Tu devrais faire attention, Agatha, tu...
Le portable d'Agatha sonna. Elle écouta, puis se leva à moitié en disant
« Vous êtes sûre ?»
Elle raccrocha, se laissa retomber sur la banquette et annonça d'une voix bouleversée.
Avant l'association de défense des animaux et avant sa sœur, le bénéficiaire de Margaret était Guy Harris.